Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce podcast, j'ai le plaisir de vous présenter mon livre « Nuance, la puissance du dialogue » tel que je le présente lorsque je suis amené à en parler en conférence par exemple. Très brièvement, ce que je voudrais aborder avec vous d'abord c'est un petit peu l'histoire de cet ouvrage, comment ça marche finalement d'écrire un livre. Comment j'en ai été amené à écrire ce livre sur la nuance, ce qui me permettra de faire le lien avec le contenu de ce livre qui se divise en trois parties. La première partie, en fait, je développe ce que d'autres personnes ont développé d'ailleurs hein, dans des ouvrages similaires, c'est pourquoi, selon moi, nous avons besoin de nuances aujourd'hui. Ensuite, dans la deuxième partie, ce que j'avais envie d'amener, c'est comment être nuancé. En gros, il y a un consensus relatif sur le fait que la nuance est une chose souhaitable. On peut discuter de ce consensus. Et en même temps, c'est parfois difficile de s'entendre sur ce qu'on met derrière. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut de la nuance, mais nous ne sommes peut-être pas toutes et tous d'accord pour savoir qu'est-ce qu'on entend par nuance. Donc, pour moi, c'était important d'aller dans le concret. Et puis, dans une troisième partie, j'interroge la pertinence de la nuance, le fait, finalement, que la nuance n'est peut-être pas toujours souhaitable, justement. Alors, j'avais envie de faire un petit clin d'œil pour parler de l'histoire du livre et finalement de mon histoire avec ce livre, en posant la question: est-ce une bonne situation, ça, Scribe, finalement? Au-delà du clin d'œil, j'avais envie du coup de retracer comment ça fonctionne, la conception d'un livre, de cette conception justement à la librairie. Et donc, j'avais envie carrément de remonter jusqu'en 2010 environ, avec mon premier livre qui s'appelle « Média, influence, pouvoir et fiabilité » que j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Alors, comment l'idée m'est venue, c'est j'écrivais, en fait. Déjà, j'écrivais et je tenais un blog qui aujourd'hui est philomedia.be. Et je me suis rendu compte que l'article concernant l'influence des médias, le pouvoir et la fiabilité des médias était celui qui était de loin le plus consulté de mon site. Je me suis dit donc, ah tiens, ça intéresse les gens. Et donc, j'ai commencé à vouloir améliorer cet article, à vouloir l'approfondir. Et un jour, je me suis retrouvé avec quelques dizaines de pages de documents. Et je me suis dit, ben tiens, ça pourrait peut-être faire un livre et je vais l'envoyer à des éditeurs, des maisons d'édition, des éditrices. C'est alors que mon premier éditeur m'a répondu et qu'en 2012, finalement, Média, influence, pouvoir et fiabilité est sorti chez l'Harmattan. Voilà. Alors, mon deuxième ouvrage, celui que j'appelle mon deuxième en tout cas, « Nuance, la puissance du dialogue », qui est paru cette année en janvier 2022, il suit un trajet qui est relativement similaire, c'est-à-dire qu'en 2020, j'ai écrit un article sur la nuance. Et précédemment à ça, j'avais déjà écrit plusieurs articles sur une éthique de la discussion, par exemple, ou sur des manières de pratiquer la décentration dans le dialogue, donc le fait de se mettre à la place d'autrui pour tâcher de le comprendre. Et en 2020, donc, je sors un article sur la question de la nuance. Et c'est une éditrice qui a repéré cet article et qui m'a proposé, avec ses collègues, éditrices également, d'en faire une version plus longue, d'en faire quelque chose de plus approfondi dans un livre. Cette maison d'édition, c'est Les Pérégrines, anciennement François Bourin éditeur, et je suis vraiment très heureux d'avoir collaboré avec elle, car c'était vraiment une expérience très riche, et j'ai bénéficié d'un accompagnement durant la rédaction et la promotion de cet ouvrage qui était vraiment très précieux. Voilà. Alors, écrire un livre, c'est pas tout. et je vous passe les détails de comment ça fonctionne la rédaction, mais en gros, et surtout lorsque c'est arrivé avec les Pérégrines, eh bien, j'ai pu vraiment bénéficier d'un travail de collaboration qui était intense et qui faisait que, ben voilà, il y avait vraiment des allers-retours entre mon éditrice, Alice Peveau, principalement, et moi-même, qui fait que je suis vraiment très heureux du résultat, étant donné que c'est un ouvrage qui prône le dialogue et que je ne l'ai pas écrit tout seul dans mon coin. En fait, j'ai vraiment pu bénéficier de relectures avisées, critiques, qui, pour moi, ont vraiment enrichi le texte. Voilà. Alors, il faut savoir que sur plus de 60 000 nouveaux livres qui sont chaque année édités en France, donc 60 000 nouveaux titres qui sortent chaque année en France, eh bien, il y en a plus ou moins 40 000 qui ne toucheront jamais les étagères d'une librairie. Donc, en fait, écrire un livre, c'est pas tout. Il y a la plupart des livres, vous ne les trouverez pas en librairie. Il faut savoir qu'ils existent, il faut pouvoir les commander, etc. Donc, c'est un travail colossal. Il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de livres qui sont édités chaque année, mais très peu savent sortir du lot et se distinguer. Et autre chiffre qui, pour moi, me donne beaucoup de chagrin, c'est de savoir que plus de 100 millions de livres sont pilonnés chaque année en France. Pilonnés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisqu'ils ne se vendent pas, ils sont détruits, littéralement détruits. Et donc, ça, c'est un gaspillage qui est énorme. Et pour les amoureuses et les amoureux de livres parmi vous, eh bien, j'imagine que c'est un nombre qui doit vous rendre, vous choquer ou vous rendre triste également. Alors, ceci pour moi n'est... Pourquoi je vous parle de ces chiffres, en fait, c'est moins pour vous alarmer que pour rendre hommage aussi à tous les métiers qui, en fait, font vivre le livre. Il y a beaucoup de métiers, en fait. Donc, il y a le métier d'auteur, d'autrice, mais il y a aussi les éditeurs, les éditrices. Il y a les personnes qui impriment les livres, celles qui les distribuent, qui les diffusent. Il y a les libraires, il y a aussi les bibliothécaires, les documentalistes, les archivistes. Alors, peut-être que parmi vous qui m'écoutez, il y a des personnes qui souhaiteraient elles aussi écrire un livre, être éditées et peut-être même vivre de cette passion, de ce métier. Pour moi, c'est bien sûr un métier, c'est bien sûr des tâches à part entière. Maintenant, il faut savoir qu'il y a cette réalité, qu'il y a en fait beaucoup de livres qui sont édités chaque année, peu qui touchent les rayons d'une librairie, et puis qu'il y a de nombreux métiers qui doivent vivre également autour du livre. Et donc, il faut savoir que un auteur ou une autrice touche environ, en tout cas c'est mon cas, 10% des ventes sur un livre. Donc sur un livre à 20 euros par exemple, eh bien un auteur va toucher 2 euros de rétribution et les autres montants seront distribués aux frais d'impression, à la distribution, à l'éditeur ou l'éditrice, au libraire, etc. Et quand je parle de 10%, ce sont en réalité de bonnes conditions. Il y a des éditrices, des maisons d'édition qui demandent d'être payées pour éditer un livre. Il y a aujourd'hui des possibilités de s'auto-éditer et à ce moment-là, c'est vous qui avancez l'argent, c'est vous qui prenez le risque en fait de mettre de l'argent pour vous faire éditer. Donc voilà, tout ceci pour dire que d'une part, le métier d'autrice ou d'auteur, c'est un métier où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et donc, il est très, très, très difficile d'en vivre. C'est un métier qui, pour la plupart des autrices et des auteurs, est très précaire. Ce qui fait qu'en ce qui me concerne, j'ai un autre métier à temps plein et que je suis loin d'être le seul dans le cas. Mais surtout, ce que j'avais envie de développer en vous exposant cela, c'est surtout que un livre ne vit que si on en parle. Sachant finalement le nombre d'ouvrages qui sont édités chaque année en France. Sachant la difficile circulation et diffusion des ouvrages, en fait, un livre, il va vraiment pouvoir rayonner que si on en parle. Je pense qu'une autrice ou un auteur, en tout cas en ce qui me concerne, si j'écris, c'est avant tout pour être lu, en fait. Et pour être lu, en fait, ce qui fonctionne le mieux, c'est que les personnes qui lisent et qui apprécient un ouvrage, elles puissent en parler autour d'elles. Et donc, mon invitation, au-delà de mon simple cas personnel et de mon ouvrage, eh bien, c'est lorsque vous aimez un livre, lorsque vous avez envie de faire vivre un livre, mais en fait, c'est de pouvoir en parler autour de vous, c'est de pouvoir faire circuler ce livre, c'est de le prêter, c'est de l'emprunter en bibliothèque. C'est... Voilà, je pense que la lecture, c'est quelque chose qui doit vivre et au-delà des aspects économiques. Si une personne écrit, c'est aussi pour être lu, c'est aussi pour partager et pour communiquer des choses. Enfin voilà, j'ai déjà été dans des salons et vous devriez voir la plupart des auteurs comme ils sont contents, comme elles sont contentes, les autrices aussi, lorsque on vient leur parler de leur livre, en fait, parce que c'est du partage, en fait. Donc voilà, et quand je dis faire vivre la lecture, c'est aussi rendre hommage et faire vivre tous ces autres métiers qui gravitent autour du livre. Voilà, alors, ceci, je vous ai dit, me permet de faire la transition avec le contenu en tant que tel de mon livre. Donc je vous ai dit, en fait, que c'est une collaboratrice des Pérégrines, des éditions Les Pérégrines, qui est venue me trouver, donc c'est Adeline Fleury en l'occurrence, qui est venue me trouver après la lecture d'un de mes articles sur la nuance. Et j'y développais déjà en partie cette thèse que nous avons besoin de nuances. La nuance est importante, il y a des enjeux à la nuance. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce thème m'intéresse particulièrement, m'interpelle particulièrement? Eh bien, j'observe que nous sommes dans une ère, peut-être, d'immédiateté et de réactivité émotionnelle. Alors, je nuancerai moi-même mes propres propos, dans l'idée que, pour moi, c'est pas quelque chose de totalement neuf. Et à la fois, nous sommes volontiers appelés à réagir à chaud, à témoigner du fait que nous sommes choqués, nous sommes indignés. D'ailleurs, je pense que le succès d'un ouvrage comme « Indignez-vous » de Stéphane Hessel ne doit rien au hasard. Je crois qu'il était clairement dans l'air du temps qu'un petit ouvrage avec peu de pages qui appelle à l'indignation, en fait, ça suscite un certain engouement. Nous sommes dans une société, je pense, où il y a vraiment un appel à réagir à chaud. Et c'est ce que d'aucuns appellent une société du commentaire. Vous êtes sur votre fil d'actualité, sur les réseaux sociaux, et vous êtes appelé à réagir, à commenter, à témoigner de votre opinion, et à le faire sous un mode qui est plus volontiers celui de l'émotion et de la morale, plutôt que de la raison et du calcul à froid. En fait, c'est ce que je désigne sous un vocable de... J'appelle ça un cocktail d'émotions et de panique morale. Les paniques morales, c'est l'idée qu'en fait, nous allons nous indigner, nous choquer, nous offusquer moralement, sur un registre moral, des modes de vie qui ne correspondent pas aux nôtres. Pardon. Alors, ceci est peut-être renforcé ou en tout cas conforté par un phénomène que Elie Pariser désigne sous le terme de bulle de filtre. C'est quoi une bulle de filtre? C'est une bulle sociale et informationnelle dans laquelle nous sommes enfermés, cloisonnés, dans laquelle nous évoluons et où donc nous sommes confrontés aux informations qui nous valident dans nos opinions préalables. En gros, c'est renforcé par les algorithmes. Je vais prendre l'algorithme d'un réseau social bien connu, dont le nom commence par F. Et cet algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne nous montre pas l'ensemble des contenus que publient nos amis, les pages auxquelles nous sommes abonnés, et ce, sur un ordre chronologique. Non, il nous montre une sélection de ceci, de celle-ci, ainsi que des publicités. Et il le fait via une formule mathématique, en fait, en fonction, qui est fonction, cette formule mathématique, de ce que nous avons déjà aimé dans le passé, ce que nos proches les plus auxquels nous accordons le plus d'importance aiment aussi, ceux avec qui nous avons le plus d'interactions. Et donc, Facebook se base, voilà, je l'ai cité, sur ce que nous avons aimé, ce que nos amis ont aimé, ce qu'ils pensent que nous allons aimer. Parce que son but, en fait, c'est de nous faire passer un maximum de temps sur la plateforme et de nous vendre de la publicité. Alors, où est le problème, me demanderez-vous? C'est que, ben, en conséquence, nous sommes confrontés plus volontiers à des contenus qui nous valident dans nos opinions préalables et moins à des contenus qui vont à l'encontre des thèses, des idées que nous pouvons côtoyer dans les sphères qui nous sont proches. Et donc, nous sommes volontiers cloisonnés dans des visions du monde assez hermétiques aux autres. Et c'est ce que j'appelle une ère de récit et de post et de contre-récit, pardon. C'est finalement à chacun son récit, à chacun son opinion, à chacun sa version des faits. C'est moins une ère de où finalement nous pourrions nous mettre d'accord sur une vision commune qu'une ère où nous serions cloisonnés chacun, chacune dans des récits qui nous sont propres. Alors ce n'est pas un phénomène totalement neuf. Pour moi, ça précède les réseaux sociaux. Je prends l'exemple d'un réseau social et en même temps, en gros, déjà avec les sciences cognitives, la psychologie sociale et autres, nous avons pu observer que il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est la tendance statistique que nous avons à accorder plus d'importance aux éléments qui confirment nos opinions préalables, nos hypothèses, que aux éléments qui les infirment, qui les invalident. Donc, et quand je dis plus d'importance, ça peut être plus d'attention. Parfois, nous ne sommes même pas attentifs ou attentifs aux éléments qui vont à l'encontre de nos opinions. Et donc, c'est des phénomènes qui existaient déjà avant les réseaux sociaux, qui existaient, à mon avis, déjà avant la télévision, mais qui peut-être tendent à se conforter dans un contexte où des algorithmes décident à notre place les contenus auxquels nous sommes confrontés. Et quand je parle de celui de Facebook, eh bien, sachez qu'il y a la même chose sur TikTok, il y a la même chose sur YouTube, etc. Donc, lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube, les vidéos qui vous sont suggérées sont en lien avec cette vidéo, en lien avec les contenus que vous avez déjà consultés par ailleurs. Donc, ces algorithmes sont opérants et ont tendance à fonctionner comme le biais de confirmation. Alors dans mon livre, je parle aussi de polarisation et de radicalité. Alors il faut bien comprendre ce que je désigne par ces termes. Je n'ai aucun problème avec le fait d'être engagé fermement, radicalement, nous pourrions dire, à propos d'un thème bien spécifique. Je pense par exemple, pour ne prendre que cet exemple, que par rapport au climat, il est important aujourd'hui de s'engager fermement. Et peut-être même, nous y reviendrons, de se battre pour ses idées. Ce qui me chagrine davantage, c'est lorsque cette polarisation et cette radicalité est ce qui structure les débats. Et lorsqu'il s'agit d'être pour ou contre, est tellement identifié à cette position binaire que ça devient quelque chose d'identitaire. On est dans un nous contre eux. On est dans toutes les personnes qui ne pensent pas exactement comme nous sont des ennemis. On est dans une polarisation qui est telle que l'autre est l'ennemi et qu'il est désormais impossible de le rencontrer et qu'il est si fondamentalement différent de nous que nous ne pouvons pas trouver de terrain d'entente. Je pense que un des enjeux de la nuance, c'est de vivre ensemble, en fait. C'est de pouvoir se mettre d'accord autour de problématiques communes pour construire quelque chose où chacune, chacun s'y retrouve. Bien sûr, je pense que ces dynamiques d'exclusion mutuelle, de nous contre eux, sont renforcées par l'idée que nous sommes dans un univers inamical. C'est René Girard qui nous dit qu'en fait, dans un univers inamical, le meilleur moyen de se faire des amis est d'adopter les ennemis des autres, les inimitiés des autres. Et j'aime beaucoup cette citation parce que elle insiste, selon moi, sur justement cette question de l'univers inamical. Si jamais le contexte social était tel que chaque personne peut prendre une place qui est agréable, qui est valorisante, qui est équitable, je pense que nous n'avons pas besoin d'ennemis. Et donc, pour moi, c'est très important de travailler sur les contextes sociaux qui font qu'à un moment donné, eh bien oui, il y a des tensions qui sont exacerbées et qu'il y a des iniquités, des injustices qui font qu'à un moment donné, bien sûr, il y a une polarisation de nous contre eux. Et donc, il faut comprendre aussi ces dynamiques. Après, comme je dis, c'est moi dans la structure même du débat public, dans la question du contexte qui fait que qui renforce ces inégalités et ces polarisations. Eh bien, donc moi je déplore que l'autre soit désigné comme un ennemi d'une manière qui soit aussi binaire, qui soit aussi polarisée. Et avec Serge Moscovici, ce que j'observe, c'est que ces polarités peuvent être amenées à se radicaliser. En fait, quand vous faites discuter des gens ensemble, et lorsque ces gens sont d'accord entre eux initialement, par exemple, ces gens ont une opinion, ont tous une opinion de gauche, ou bien ces gens ont tous une opinion de droite, si vous les faites discuter sur base de cette opinion, entre eux, entre personnes qui sont d'accord entre elles, eh bien, non seulement ils ne vont pas changer d'avis par rapport à cette opinion, on pourrait s'y attendre, mais ils vont être encore plus fermement opposés à toute opinion contraire à la leur. Ils vont être encore plus fervents défenseurs de cette opinion. Alors, peut-être à raison ou tort, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique qui fait que lorsque des personnes qui sont d'accord entre elles discutent entre elles en cercle fermé, elles ont tendance à être encore plus radical ensuite par rapport à cette opinion. Et donc, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle, c'est la question de l'isolement. L'isolement, le cloisonnement, parfois, dans des communautés, dans des cercles, dans des sphères, qui nous cloisonnent des autres, des opinions différentes des nôtres. Et je pense que ce phénomène que j'appellerais un phénomène de précarité relationnelle est loin d'être neuf. Avec le capitalisme, avec finalement les évolutions sociales récentes, et pas si récentes que ça d'ailleurs, avec l'industrialisation et autres, je pense que nous sommes de plus en plus amenés à une forme d'individuation, d'individualisme dans la société. Et c'est pas moi qui le dis, il y a de nombreuses études en sciences sociales qui nous disent finalement même le sentiment de solitude, c'est une réalité sociale, et c'est une réalité sociale qui tend à se répandre, à se généraliser encore davantage et davantage. Et donc, ce que j'appelle une précarité relationnelle, c'est l'idée que finalement, notre tissu social, notre tissu de cohésion sociale, de lien avec les autres, est fragile. Il est fragile et que ceci est un terreau favorable pour des formes de repli sur soi qui, à mon avis, ne sont pas toujours favorables à la construction d'un cadre propice, d'un vivre ensemble commun. Alors, je terminerai sur le besoin de nuance en disant que pour moi, l'antonyme, le contraire de la nuance, c'est le dogmatisme. Qu'est-ce qui caractérise le dogmatisme ? C'est la posture de l'indiscutabilité. En fait, ce qui caractérise le dogmatisme pour moi, c'est moins le contenu d'une thèse en particulier. C'est pas parce qu'on est religieux, par exemple, qu'on est dogmatique. Souvent, on associe le dogmatisme à la religion. Il y a bien sûr des dogmatismes religieux, mais on peut aussi trouver des dogmatismes qui sont indépendants de la religion, qui sont politiques, ou bien qui sont sur un thème religieux, mais sans être soi-même religieux. Donc, pour moi, être dogmatique, c'est vraiment un rapport à nos opinions, à nos croyances. C'est lorsque nous estimons qu'elles ne sont pas discutables et que, en gros, tout le monde devrait s'y rallier sans avoir droit à la parole. Alors, discuter ne veut pas dire remettre en question sans cesse et sans cesse. On peut s'accorder sur des choses et se mettre d'accord autour de choses, mais il y a une différence entre être ouvert au doute, au dialogue et à l'explication, ne serait-ce qu'à l'explication, et affirmer des choses en estimant qu'elles doivent s'imposer à toutes et tous et qu'on ne peut pas les remettre en question du tout. Ça, c'est du dogmatisme. Alors, ceci, ce que je viens de développer, en fait, d'autres avant moi l'ont développé, ou en même temps que moi. Alors, c'était intéressant de voir, hein, je vous ai dit que j'ai écrit en 2020, et puis en 2021 est paru l'ouvrage « Le courage de la nuance » de Jean Birnbaum. Il y a également l'ouvrage de Didier Pourquery sur « Sauvons le débat, osons la nuance ». Il s'appelle « Osons le débat, osons la nuance ». Qui est sorti peu de temps avant le mien. Et en fait, ces ouvrages ont des points communs. Ils ont des différences avec le mien, mais ils ont aussi des points communs. Là où moi, j'avais envie d'insister, de mettre le focus, comme je vous l'ai dit, c'est sur le fait que nous pouvons nous mettre d'accord et nous trouver un consensus relatif autour de l'importance de la nuance. C'est peut-être plus difficile lorsqu'il s'agit de dire « Ok, comment être nuancé concrètement ?» Et c'est là-dessus que j'avais envie de focaliser une partie de mon travail. Parce que je pense que c'est bien beau de dire qu'il faut être nuancé, mais c'est encore mieux si on peut se mettre d'accord sur comment le faire concrètement. Alors pour dire comment le faire concrètement, je pense d'abord que il faut distinguer cette nuance de ce qu'elle n'est pas. Et rapidement, moi, ce que j'ai envie de dire, déjà à titre personnel, hein, moi j'ai écrit un livre sur la nuance, donc on m'attend au tournant sur le fait que je sois nuancé. Je crois que ce que la nuance n'est pas, c'est une attitude de redresseur de tort, de donneur ou de donneuse de leçons, qui viendrait dire aux autres « soyez nuancés » et qui viendrait être la police de la nuance, quoi. Moi, j'ai pas envie que quelqu'un fasse la police de la nuance envers moi, et donc je comprends aisément que personne n'a envie, ou qu'en tout cas il y a des gens qui n'aient pas envie que je sois la police de la nuance. Je ne suis pas la police de la nuance, et je n'ai pas envie que des gens s'érigent en redresseur de tort, en donneur de leçons, sur base de mon livre. Pour moi, c'est pas ça, être nuancé. C'est même une attitude qui, selon moi, va à l'encontre de la nuance, de l'envie finalement de comprendre la réalité d'autrui. Donc, je pense que s'ériger en donneur de leçons, c'est pas du tout ce que je veux faire. C'est pas non plus une tendance à chipoter, à ergoter, à complexifier ou à jargonner pour le plaisir. Voilà, nuance, hein, et puis je viens étaler un verbiage pompeux. Non, en fait, les mots, pour moi, ont le sens qu'on leur donne en contexte. Tant que nous sommes d'accord et que nous comprenons, ce n'est pas grave d'utiliser un mot pour un autre. En fait, la communication est telle que il ne s'agit pas de mettre les points sur les i à tout prix et utiliser le bon mot pour le plaisir. J'aime utiliser les bons mots. J'aime la langue. Et en même temps, je crois qu'il faut se garder d'une tendance à chipoter, à jargonner, à utiliser du verbiage qui ne fait finalement que complexifier le discours. Alors, j'ai aussi envie de dire, et vous l'entendez peut-être à ma voix, que la nuance n'est pas le contraire de l'engagement profond, l'engagement avec la passion, l'engagement avec les émotions. Et donc, il ne s'agit pas systématiquement de mettre la balle au centre, d'être dans un ventre mou, où en fait tout le monde a raison, où je ne m'engage pas trop. Non, ce n'est pas une absence de choix. La nuance, je le dirai tout à l'heure, c'est plutôt une affaire de discernement, de pouvoir faire la part des choses. Et donc, pouvoir faire la part des choses, c'est aussi s'engager, c'est aussi reconnaître que certains points de vue ont plus de validité que d'autres. Alors, je distingue la nuance du relativisme radical qui voudrait que tout se vaut, que toutes les opinions ont la même validité, la même puissance, que toutes les opinions sont égales, ou qu'il faudrait douter de tout. En tout cas, s'il faut douter de tout, il ne faut pas le faire n'importe comment. Ce n'est pas un scepticisme radical qui douterait de tout sans méthode, sans se donner de critères pour, à un moment donné, se dire que certaines opinions, certaines thèses ont peut-être plus de pertinence que d'autres. Alors la nuance, ça ne revient pas non plus à tout tolérer. Je pense que la tolérance est très importante dans la nuance. Je pense que une société de la tolérance, c'est vraiment très important. Et je me joins à Karl Popper qui souhaite de ses voeux que la tolérance structure notre société. Mais comme Karl Popper, je pense que la tolérance contient en elle-même un paradoxe. Si nous voulons que la tolérance soit un principe de société, en fait, nous devons reconnaître qu'il nous faut exclure l'intolérance. Nous ne pouvons pas tolérer l'intolérance si nous voulons une société de la tolérance. Si nous nous mettons à tolérer l'intolérance, en fait, la tolérance, d'ailleurs, d'un point de vue pragmatique, a tendance à prendre le pouvoir et à agir de manière à museler les autres. Or, c'est l'inverse de ce que nous voulons dans une société de la tolérance. Nous voulons d'une société où il est interdit de museler les opinions différentes des nôtres. Et donc, c'est la démonstration que pour avoir une société tolérante, nous devons interdire l'intolérance. Nous devons interdire le fait de museler autrui, même si ça passe par le fait de museler cette intolérance. Alors, ceci, hein, bien sûr, est mieux dit par Karl Popper, et puis je synthétise cet argument, mais vous aurez compris que ce n'est pas tout toléré. La nuance, ce n'est pas tout toléré. Et principalement, ce que nous ne tolérerons pas, et c'est ce que je dis quand je parle du dogmatisme, c'est cette posture de l'indiscutabilité qui vise à museler les opinions différentes des autres, des nôtres. Alors, dans le bouquin, je vais plus loin quant à l'épistémologie de la nuance. Et donc, je ne vais pas ici développer tout un ensemble de termes que j'associe à la nuance, mais j'avais vraiment envie de dire que, et de fonder en fait ma perspective de la nuance, de faire que ce ne soit pas juste une opinion subjective, mais de la relier à des concepts philosophiques. Alors, l'épistémologie, c'est quoi, juste en deux mots? L'épistémologie, c'est la partie de la philo qui s'intéresse à la vérité, à la connaissance. Et pour moi, la nuance, le dialogue, en fait, ça doit être au service de la vérité, de la connaissance. Pourquoi je crois que la nuance, c'est important? Pourquoi je crois que le dialogue, c'est important? Eh bien, parce que je pense que ça peut nous permettre d'arriver à plus de connaissances, de faire que la connaissance peut progresser. C'est ça le but, en fait. C'est un des buts de la nuance. Et donc, il était important pour moi que mes développements à propos de la nuance, que mes recommandations, si je puis m'exprimer ainsi, ce n'en sont pas tout à fait, mais ce que j'associe à la nuance puisse reposer en même temps sur des bases en épistémologie. Des bases qui ne sont pas universelles, qui peuvent être discutées, et en même temps que celles-ci soient suffisamment explicitées pour que l'on comprenne, que l'on sache sur quel fondement elle repose. Alors, sur ces bases, qui relèvent du constructivisme en épistémologie, par exemple, du pluralisme ou encore du pragmatisme, eh bien, Je développe trois verbes que j'associe à la nuance, trois actions que j'associe à la nuance. La première est comprendre. Le premier verbe est comprendre. Et comprendre, bien sûr, c'est comprendre d'un point de vue cognitif, c'est comprendre ce que l'autre signifie avec les mots qu'il utilise ou qu'elle utilise. Mais c'est aussi comprendre ce qui se dit, ce qui se vit au-delà de ce qui se dit. C'est-à-dire comprendre les émotions, comprendre les préoccupations d'autrui. C'est tout à l'heure, j'utilisais le mot décentration et je pense que ça passe par là, c'est pratiquer la décentration, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, se mettre à la place d'autrui pour essayer vraiment de cerner sa perspective un peu dans les tripes, j'ai envie de dire. Alors, je mets tout de suite en porte-à-faux avec les personnes qui disent que comprendre revient à excuser. Je vais prendre un exemple qui pour moi est assez simple. Je m'occupe d'un enfant qui frappe un autre enfant. Et en fait, je suis en parfait désaccord avec le fait qu'il ait frappé. Je suis vraiment pas d'accord avec ça et je vais lui demander de réparer son acte, par exemple en allant présenter ses excuses à l'autre enfant et en faisant quelque chose qui répare son acte auprès de cet autre enfant. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer de comprendre en fait ce qui fait que peut-être il a été en colère, qu'il a été triste, qu'il a été chagriné, qu'il s'est fâché. Bref, je peux écouter cet enfant, je peux le comprendre avec peut-être aussi beaucoup d'empathie, tout en étant très ferme sur le fait que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il ait frappé et que je lui demande de ne pas recommencer. Et donc, ça ne revient aucunement à l'excuser. C'est pas parce que j'écoute cet enfant et que j'essaye de comprendre et peut-être même de trouver des solutions avec cet enfant pour que cette situation ne se reproduise plus, cette situation désagréable pour lui ne se reproduise plus. Et en même temps, je suis en parfait désaccord avec le fait qu'il ait frappé. Donc, comprendre, pour moi, c'est une dynamique qui fait partie de la nuance, qui fait que j'ai vraiment envie d'entendre les préoccupations de l'autre. Et ça ne veut pas dire que je serai d'accord avec cette personne ou avec ce qu'elle a fait. Alors, la nuance, pour moi, c'est aussi de l'écoute, c'est le dialogue, c'est la rencontre, en fait. Et donc, l'écoute, pour être nuancé, il suffit pas de parler. Ici, je suis en train de parler tout seul, mais c'est aussi une affaire de rencontre et de dialogue. Et pour se rencontrer et dialoguer, en fait, il faut laisser autrui s'exprimer. Et je crois qu'il y a dans la philosophie des ressources pour cela. En fait, la philosophie, elle démarre avec du questionnement. Alors, Socrate, on pourrait l'identifier comme étant un personnage qui aime aussi déjouer ses contradicteurs et qui aime gagner les débats. Moi, Socrate, je préfère le voir comme quelqu'un qui questionne, qui demande à son interlocuteur ou à son interlocutrice, plus rarement, qu'est-ce qui est vrai? Quelle est ta vision de la vérité? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est juste? Et pour moi, c'est un des fondements de la philosophie. Et pour vraiment essayer d'entendre ce que l'autre pense, eh bien, il s'agit de dépasser les caricatures, souvent. Enfin, le troisième verbe que j'associe à la nuance, c'est discerner. C'est le discernement. Alors, il y a plusieurs choses que j'aimerais dire sur le discernement, et en fait, je me base sur plusieurs visions de la vérité en philosophie pour ça. Une première manière de voir la vérité, c'est de la voir comme la correspondance entre mes mots et le monde. C'est finalement l'analyse du rapport entre les phrases et la réalité. Et donc, par exemple, si je dis que je suis assis sur une chaise en ce moment, eh bien, cette phrase, elle est vraie si effectivement je suis assis sur une chaise en ce moment, si la réalité correspond à ce que je dis. Et donc, une première manière d'évaluer un discours, une première manière de faire du discernement, eh bien, c'est de revenir aux faits, c'est de revenir à la réalité. C'est ce que fait le fact-checking, par exemple, dans la presse. C'est vraiment de remettre l'observation du réel au centre de nos préoccupations. Après, ce n'est pas la seule manière de questionner la validité d'un discours, ce n'est pas la seule manière d'interroger la vérité. Et une autre manière de faire, c'est d'évaluer finalement le rapport des mots entre eux, le rapport des phrases entre elles. Si je vous dis par exemple qu'un cheval blanc est un cheval gris, vous allez pouvoir me contredire sans même regarder le réel, sans même observer le réel. Parce que mon discours en lui-même est incohérent. Dans mon discours, il y a des choses qui se contredisent elles-mêmes. Et donc, lorsque nous évaluons la vérité ou la validité d'un discours, parfois, simplement en évaluant le rapport des mots entre eux, nous pouvons dire que ce discours est invalide. Et donc, pour ce faire, nous nous reposons notamment sur la logique et sur la validité des raisonnements. Et je pense que c'est une des choses qui est importante, c'est bien de faire du fact-checking, mais je pense aussi que c'est intéressant d'apprendre, de développer nos compétences à identifier des raisonnements qui sont valides ou de la rhétorique, des arguments qui sont fallacieux, a contrario, donc des choses qui nous paraissent logiques, mais qui en fait sont bancales au niveau de la logique, ne sont pas valides. Et puis, une chose que je pense qu'il faut encore évaluer, c'est le rapport des mots avec leurs usages, leurs usagers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un même mot, selon qu'il est prononcé par une certaine personne dans un certain contexte, aura un autre sens que s'il est prononcé par une autre personne dans un autre contexte. Et je vais prendre un exemple. Si je dis à mon meilleur ami « Mais qu'est-ce que t'es bête, toi ?» avec un sourire, en fait, je suis probablement plus en train de lui témoigner de mon affection et peut-être que d'ailleurs je ne me permettrai pas de dire ça à quelqu'un qui n'est pas mon meilleur ami, que de critiquer son intelligence, en fait. Ce qui compte, ce n'est pas que je sois en train de lui dire « qu'est-ce que t'es bête ?» Ce que nous allons évaluer ici, c'est le contexte, c'est la relation que nous avons entre nous, et c'est ce qui fait que nous allons véritablement comprendre et discerner ce que j'ai voulu dire. Donc, c'est important, si nous voulons évaluer la validité d'un discours, de comprendre dans quel genre de contexte il est dit et quels sont les effets sur ce contexte. Quels sont, finalement, à quoi sert ce discours dans ce contexte ? Quelles sont les interactions entre les mots et la manière dont nous pratiquons le langage. Alors, à ces trois manières de pratiquer du discernement, d'évaluer un discours, en fait, eh bien, j'ajouterais qu'il y a une notion que j'aime bien et que j'emprunte à la physique, qui est la notion de référentiel, en fait. C'est l'idée que nos phrases, nos discours, en fait, sont généralement valides dans une perspective donnée. Et c'est l'idée de relativité que j'aime illustrer par la métaphore du train et que j'emprunte également. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes dans un train, vous faites un certain trajet, vous faites quelques mètres en direction de l'arrière du train. Et en même temps, ce train est en train d'avancer dans une autre direction, dans la direction opposée. Eh bien, du point de vue du train, mettons que vous ayez fait 5 mètres, vous avez fait 5 mètres vers l'arrière du train. Mais du point de vue du sol, des rails, en fait, vous avez peut-être avancé de plusieurs mètres dans l'autre direction. Et donc, vous comprenez que les deux choses sont vraies, mais elles sont vraies d'un certain point de vue, selon un certain référentiel. Et puis si nous prenons en compte la rotation de la Terre sur elle-même, ou bien le fait qu'elle gravite autour du Soleil, eh bien, vous avez encore parcouru d'autres distances, dans d'autres directions. Donc, tout dépend du point de vue selon lequel on regarde votre trajet. Selon le point de vue du train, vous avez fait 5 mètres en arrière. Selon le point de vue des rails, vous avez fait X mètres en avant. Selon le point de vue de la Terre, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que pratiquer du discernement, c'est aussi essayer de déterminer dans quelle mesure, c'est vraiment la question de la mesure, dans quelle mesure ce que je dis est vrai. Dans quelle mesure ce que je dis s'applique à la réalité dont j'essaye de parler. Quel est finalement notre référentiel ? Parfois, nous pouvons avoir raison tous les deux, mais nous n'avons pas également raison. Nous avons chacune raison d'un certain point de vue, dans une certaine mesure, selon un référentiel donné. Et peut-être qu'un référentiel est plus pertinent qu'un autre pour parler d'une chose, ou en tout cas que, idéalement, cela vaudrait peut-être le coup de mettre en commun nos référentiels pour essayer de comprendre dans quelle mesure nos discours ont de la valeur, ont de la pertinence. Alors, sur la question de la pertinence, justement, je pense qu'il est important de nuancer l'importance de la nuance, d'être nuancé à l'égard de la nuance et de dire que la nuance n'est peut-être pas souhaitable, n'est peut-être pas possible d'ailleurs, en toutes circonstances. Une des questions que je me suis posée en écrivant cet ouvrage, c'est « La nuance est-elle un luxe ?» Et vulgairement, je pose cette question rhétorique, peut-on être nuancé avec un flingue sur la tempe ? Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'injonction à la nuance n'est pas la nuance, que c'est peut-être même quelque chose qui s'oppose à la nuance, parce que il est, selon moi, indélicat, voire grossier, d'exiger de tout le monde d'être nuancé. Et qu'il y a certaines personnes, peut-être dans leur posture, qui ne sont pas en position favorable pour être nuancées. Maintenant, je pense que la nuance n'est pas un luxe dans la mesure où, selon moi, elle implique un effort de réflexivité, un effort de remise en question. En fait, j'aurais envie de dire que ce que je souhaite, en fait, à qui je souhaite que la nuance s'applique, je souhaite qu'elle s'applique davantage à moi-même en première personne. Lorsque j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit en partie comme un témoignage, je l'ai écrit comme, tiens, mon cheminement, finalement, à propos de la nuance et comment j'ai tâché de fonder cette nuance, pas tout seul, bien sûr, en me basant sur de la philosophie, mais aussi en toute humilité à comment je tâche de l'appliquer à moi-même dans mon quotidien, et pas comment je tâche de l'imposer à autrui. Ensuite, à qui je voudrais qu'elle s'applique davantage, ou dans quel lieu je voudrais qu'elle s'applique davantage, c'est dans le débat public, dans la manière dont est structuré le débat dans les médias, par exemple, dans la presse, mais aussi sur les réseaux sociaux, au niveau politique. Et donc, c'est à un niveau structurel. Il ne me vient pas à l'idée d'exiger que des minorités, par exemple, qui sont opprimées, qui ont à peine droit au chapitre, il ne me vient pas à l'idée de les désigner du doigt et de leur dire « arrêtez un petit peu de crier et allez vous nuancer ». Je crois qu'une telle attitude serait complètement déplacée, en fait. Alors, comme j'ai tâché de fonder ma vision de la nuance, la vision que je partage en tout cas de la nuance sur une certaine des bases en épistémologie, eh bien, j'interroge aussi la question éthique, la nuance d'un point de vue de l'éthique de la philosophie morale. C'est-à-dire que pour moi, la nuance, en fait, si j'estime que c'est si important, que j'utilise d'ailleurs le mot « important », c'est que je me situe sur un registre du devoir-être, que je me situe sur un registre de philosophie morale. Et donc, que j'estime, dans une certaine mesure, que la nuance peut être au service d'une certaine vision du bien, de ce qui est bien, de ce qui est bon. Et pour tâcher de formaliser ça, eh bien, je développe une certaine vision de l'éthique, notamment en me basant sur des ouvrages du philosophe Ruénogien, que j'apprécie beaucoup, sur une forme de minimalisme moral qui revient à dire que un des principes fondateurs de l'éthique, c'est de ne pas nuire à autrui et de garder de la réserve par rapport aux manières de vivre qui sont différentes des nôtres. En fait, en gros, tant que nous avons des modes de vie qui ne nuisent pas à autrui, eh bien, ce n'est pas à quiconque de venir légiférer sur notre manière d'être, de manière de vivre. En gros, y aurait une forme de liberté dans les modes de vie personnels, une équité des voies de chacune et de chacun, et tout cela encadré par l'absence de nuisance à autrui. Voilà, je développe bien sûr tout ça et toutes les implications d'une telle vision dans le livre, mais je pense que c'est un cadre qui est déjà finalement suffisamment contraignant. C'est un cadre qui est minimaliste et qui pourtant est déjà très très complexe à appliquer quand on tâche de le confronter aux situations du quotidien. Alors, pour moi, il y a des limites au dialogue. Des limites au dialogue et donc à la nuance qui font qu'à certains moments, nous devons nous protéger. En fait, j'ai parlé du fait de se nuancer avec un flingue sur la tempe. Je pense que c'est complètement déplacé. Et je pense qu'à certains moments, ben, c'est bien beau de vouloir dialoguer, c'est bien beau d'ouvrir la discussion. Et j'ai déjà tâché de le faire avec des personnes qui me manifestaient de l'animosité, voire de l'agressivité. Pour autant, à certains moments, je pense qu'il est bon de se protéger, voire de se défendre. Et donc, qu'il peut être judicieux de couper court au débat, de prendre la fuite, lorsque cela est possible. Et donc, il n'est pas judicieux, selon moi, d'ouvrir le dialogue à tout moment. Et pour dialoguer, il faut à un moment donné être deux. Donc, si l'autre veut à tout prix me nuire, indépendamment de mes efforts pour ouvrir le dialogue, j'ai tout intérêt à me protéger. Ensuite, je pense que, comme en vertu de ce que je viens de développer au sujet de la philosophie de Ruhenogien, je pense qu'il est intéressant de laisser vivre les autres comme ils l'entendent. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que je pourrais avoir propension à vouloir dialoguer de tout et n'importe quoi et d'essayer de comprendre finalement les modes de vie qui sont différents des miens. Mais il faut voir dans quelle intention je fais ça. En fait, est-ce de la curiosité? Est-ce que j'ai envie de convaincre autrui? Est-ce qu'il faut vraiment dialoguer de tout? Est-ce qu'à un moment donné, simplement, on ne peut pas accepter le fait que d'autres vivent différemment de nous et au fond que nous ne comprenons pas ce mode de vie et qu'en même temps, eh bien, nous pouvons vivre ensemble? Et donc, je pense que c'est aussi une question d'énergie, et j'en viens à mon troisième point. Mon troisième point, c'est de s'économiser, de nous économiser. En fait, il faut savoir que lorsque nous choisissons de dialoguer sur un thème spécifique, en fait, nous choisissons de mettre de l'énergie, de mettre de l'engagement sur ce thème. Et cette énergie, nous ne pouvons pas la mettre ailleurs. Et pour moi, il y a véritablement une question d'économie du débat public à mettre dans la balance finalement à quel sujet donnons-nous de l'importance, avec quelle personne décidons-nous de mettre de l'énergie pour dialoguer. En fait, c'est vraiment des questions super importantes. Elles structurent, selon moi, ou elles pourraient structurer les débats publics à la télévision ou bien dans les lignes de presse ou bien même sur les réseaux sociaux. En fait, le simple fait de donner de l'importance à un sujet plutôt qu'un autre, à un interlocuteur plutôt qu'un autre, eh bien, c'est donner de la place à un sujet au détriment d'autres sujets, au détriment d'autres interlocutrices. Donc, il y a vraiment une vision économique à avoir. Pas seulement, donc, je ne parle pas vraiment financier, mais il est question d'allocation de ressources, d'allocation de moyens, et finalement de soupeser les intérêts, les bénéfices et les coûts que le dialogue peut avoir dans certaines situations. Dans certains cas, il y a peut-être d'autres solutions qui sont plus viables et dans certains cas, ce n'est pas le dialogue qu'il est intéressant de mettre en place, ou en tout cas qu'il est le plus intéressant de mettre en place. Alors, je terminerai en insistant sur le fait que pour moi, vous l'aurez compris, c'est vraiment la question du débat constructif qui m'a interpellé durant toute la rédaction de cet ouvrage et encore aujourd'hui. Et que pour ce débat constructif, pour que vous et moi, pour que autrui et moi-même soyons dans de bonnes dispositions pour débattre, eh bien, il faut qu'il y ait un cadre propice. Il faut que nous puissions être dans une situation d'équité relative. Il faut que nous soyons dans des environnements favorables à la nuance. Et donc, je pense, notamment, hein, ça passe par la liberté d'expression et par ses limites. Donc, je vous ai dit, nous ne pouvons pas tolérer que l'intolérance soit instituée en règle du débat. Donc, au contraire, nous devons instituer le fait que l'intolérance est interdite, que la nuisance est quelque chose qu'il faut éviter autant que faire se peut. Et donc, la liberté d'expression ne justifie pas, par exemple, la calomnie, la diffamation, le racisme, la xénophobie, le sexisme. Elle ne justifie pas de nuire arbitrairement à des personnes ou à des communautés de personnes. En fait, ce n'est pas ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est que chacune et chacun puisse avoir des opinions fondées, puisse avoir sa vision du monde, puisse vivre dans ses modes de vie tant qu'il ne nuit pas à autrui. Si moi j'estime que c'est dans ma liberté d'expression de taper mon voisin, ben en fait je vais me faire sanctionner par la loi. Ce n'est pas ça la liberté d'expression, même si moi j'estime que pour m'exprimer, en fait je peux taper. Ce n'est pas ça, vous serez d'accord avec moi, je l'imagine. Et donc c'est pareil avec les mots. En fait, je ne peux pas blesser autrui sous prétexte de liberté d'expression. Il y a des situations qui justifient de porter un préjudice à autrui selon un intérêt public. Mais tout ça est débattu, tout ça est mis en balance, en fait. Donc, la liberté d'expression, elle est encadrée et elle est limitée. Il faut, selon moi, institutionnaliser cette liberté d'expression. Alors, elle l'est déjà, mais je pense que en termes moraux et pas seulement en termes juridiques, en gros, il y a une question de pluralisme qui mérite d'être mise au centre du débat public. Pour être pluraliste, il ne suffit pas d'interroger une caricature du pour et une caricature du contre et de leur donner 50 secondes top chrono pour chacun, chacune, balancer leur slogan, en fait. Il ne s'agit pas de donner 50% de temps de parole à un néo-nazi et 50% de temps de parole à un descendant ou une descendante de victimes de la Shoah pour faire droit au pluralisme. Non, le pluralisme, c'est pouvoir faire droit aux opinions fondées et pouvoir construire quelque chose ensemble, pouvoir vraiment avoir un éventail de complexité et non une caricature de clash et plus un spectacle en fait qu'un débat. Donc il est question vraiment de réhabiliter une forme de conversation qui puisse être constructive, qui puisse faire valoir différents points de vue et non de montrer finalement un combat comme on pourrait le voir dans une arène. Voilà. Et donc je pense que pour assainir le débat public, la nuance, ça implique notamment de prendre le temps, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans une certaine mesure pendant ce podcast. Voilà. Alors, il y a bien sûr, moi, ce que je souhaite, hein, à chaque fois que j'écris, à chaque fois que je prends la parole, c'est de pouvoir prolonger la réflexion, pouvoir prolonger la discussion. Je pense que un des enjeux de la nuance, c'est de pouvoir penser ensemble nos différences, c'est de pouvoir penser ensemble avec et peut-être au-delà de nos différences. De construire des solutions et non chercher des coupables. Et donc, moi, j'ai beaucoup parlé ici tout seul, mais en fait, je me suis basé sur des lectures. Je vous recommande vraiment plusieurs autrices et auteurs que j'ai cités durant ce podcast. J'en liste dans ma bibliographie. Je vous ai dit, moi j'ai à cœur de faire lire, vivre la lecture, donc en gros, ben, lisez d'autres choses, des choses peut-être qui vont à l'encontre de ce que je vous ai présenté ici. Et puis, ben, ce qui m'importe, c'est aussi d'avoir des retours, peut-être, si possible, constructifs, d'avoir des opinions, d'avoir des avis, d'avoir des échanges et d'en susciter. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à m'envoyer vos commentaires. Et bah dans la mesure où ils sont bienveillants, bah moi j'y répondrai aussi avec bienveillance et en tâchant de comprendre ce que vous avez voulu me communiquer. Voilà, je vous remercie si vous m'avez écouté jusque-là. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt. Merci encore.